Bonjour, c'est mardi 9 janvier 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée d'hiver, enfin des températures qui nous permettent d'aller jouer dehors. Oui, ça nous pète, on n'est plus en vacances. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Oui, la preuve qu'on n'a aucun contrôle sur la météo, mais absolument, qu'on chiale pareil.
Oh, on n'est jamais content.
Jamais, jamais. Mais moi, je suis contente de vous retrouver. Puis, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens qui prend son envol avec vous, avec les éphémérides, Jean-Sébastien.
Absolument. Ce 9 janvier 1431, d'abord, début du procès de Jeanne d'Arc. 1493, quelques années plus tard, Christophe Colomb aperçoit des lamantins et, pensant que ce sont des sirènes, déclare que leur beauté a été grandement exagérée. Ça me fait
des
rire.
Lamantins?
Des lamantins, oui.
Un mot que je connaissais pas.
Je vous en ferai une description plus tard. 9 janvier 1522, le Hollandais Adrian Florizoon est élu pape, c'est-à-dire Adrien VI. C'est le dernier non-italien avant le Polonais Karol Wojtyla, avant Jean-Paul II.
C'est qui... plus simple comme ça.
En effet, je me parle, mon polonais est très mauvais. Ouais. Lui qui a été élu en octobre 1978, donc on se rappelle de la date du Hollandais, c'était en 1522, donc plus de 400 ans entre ces deux nominations pour la papauté qui ne furent pas italiens. 9 janvier 1613, Samuel de Champlain publie le récit de ses explorations menées entre 1604 et 1612. 1799, le premier ministre anglais William Pitt fait adopter le premier système d'impôt sur le revenu au monde. 1861, les premiers coups de feu de la guerre de sécession sont tirés à Charleston, en Caroline du Sud. 1905, encore un 9 janvier, dimanche rouge à Saint-Pétersbourg, manifestation qui se voulait pacifique et qui fit 96 morts et 333 blessés lorsque les autorités ont tiré sur la foule. C'est ce qui marque le début de la Révolution russe. 1927, rue Sainte-Catherine dans l'est de Montréal, incendie au cinéma Laurier Palace dans lequel 77 enfants perdent la vie.
Ah, tragédie.
1937, interdiction par Mussolini des mariages mixtes dans les colonies africaines. 1962, trois ans après la prise du pouvoir par Fidel Castro, Cuba et la Russie soviétique signent un accord commercial. Toujours un 9 janvier, cette fois en 1968, la sonde américaine Surveyor 7, Surveyor 7, se pose sur la Lune.
50 ans aujourd'hui!
En effet, ben oui, déjà 50 ans. 1972, le Queen Elizabeth est détruit par le feu. 1976, Sylvester Stallone débute le tournage du film Rocky. 1992, en Bosnie-Herzégovine, les ultra-serbes proclament leur république amorçant 4 ans de guerre civile. Mais 9 janvier 1995, par grand froid, 15 000 candidats à 700 emplois font la queue devant une usine GM Canada à Oshawa. 15 000 personnes qui veulent 700 postes disponibles quand même. 1998 qui est bien sûr lié à la crise du verglas pour nous. 9 janvier 1998, au pire moment du verglas, 1,3 million de foyers sont privés d'électricité au Québec. Même les usines de filtration sont touchées. L'île de Montréal passe près de manquer d'eau potable.
Avez-vous été touché, vous, Jean-Sébastien?
J'habitais en Abitibi, donc je n'ai pas été. On a eu des froids, mais on n'a pas connu cette situation de verglas quand même assez tragique.
Ah oui, dramatique. Il y a eu des morts, c'est vrai. Oui. Tragique.
2007, 9 janvier, Steve Jobs présente le tout premier iPhone. Donc iPhone.
C'est à cause de lui que tout le monde se parle. Plus.
iPhone, donc présenté il y a 11 ans aujourd'hui, 2015, 9 janvier, double prise d'otage à Paris et à Dammartin en Goëlle, dans le cadre à la suite bien sûr de l'attentat contre Charlie Hebdo qui est survenu 2 jours plus tôt. On en parlait encore hier, les anniversaires de naissance, 9 janvier, la femme de lettres Simone de Beauvoir, née en 1908. 1913, naissance de Richard Nixon, Richard Nixon, l'unique président américain forcé à démissionner. 1941, la chanteuse et poète Joan Baez à New York. Et 1982, c'est l'anniversaire de naissance de la duchesse de Cambridge, Catherine Middleton, Kate Middleton, qui a donc 36 ans aujourd'hui.
Et anniversaire... J'ai entendu dire qu'elle était enceinte de son troisième enfant. Potin, c'est possible. C'est à vérifier ça aussi.
Prochaine fois que je la verrai, je lui demanderai. Oui. Et finalement, 9 janvier, anniversaire de décès, en 2011, on perdait le comédien et animateur québécois Gaston Lheureux.
Ah oui, trop jeune. J'étais trop curieuse, Jean-Sébastien. Je suis allée voir de quoi avait l'air un lamantin. Et je comprends que...
Ce n'est pas dans le même registre de beauté que les sirènes.
Pas vraiment. Un gros mammifère aquatique herbivore au corps fuselé. Mais il y a quelque chose d'attachant.
Oh mais, oui, sympathique, mais...
Dans les canons de beauté, on passera. Merci. À la une de la presse d'aujourd'hui, je veux mourir dans la dignité. Jean Truchon et Nicole Gladu, à qui l'État a refusé l'aide médicale à mourir, contestent devant les tribunaux la constitutionnalité des lois canadiennes et québécoises sur la question et craignent de mourir dans des conditions inhumaines avant la fin de leur combat judiciaire. Nathalie Petrovski, sa chronique intitulée « Oprah présidente, j'en doute, point de suspension ». Antidouleur virtuelle, le CHU Sainte-Justine mise sur des jeux de réalité virtuelle pour apaiser ses jeunes patients. Sport, Alex Kovalev, c'est difficile de voir le Canadien jouer comme ça. Exclusif à la presse, Radar photo fixe 10 fois moins de contraventions depuis un an. Depuis un an, les 20 radars photo fixes du ministère québécois des Transports ont distribué 10 fois moins de contraventions qu'en temps normal. Principale trappe à tickets, entre guillemets, sur le territoire québécois, le sinomomètre sur l'autoroute 15 Sud près de la sortie Atwater n'a pas débusqué un seul automobiliste délinquant en 2017. Les chiffres que le ministère de la Justice vient de mettre en ligne sur son site Internet permettent de faire un premier bilan annuel de l'impact de la décision du juge Serge Simon, qui, à la fin de 2016, jugeait que la preuve établie à partir d'un radar photo n'avait aucune valeur probante, ce qui rendait ces contraventions non avenues. Le projet de réforme du Code de la sécurité routière, déposé en décembre par le ministre des Transports André Fortin, veut pallier ce problème et réhabiliter ce moyen de surveillance en statuant que le constat des radars photofixes, mobiles et caméras installées au feu rouge peut servir de preuve. En attendant, les chiffres de la justice montrent que seulement 10 000 automobilistes ont reçu une contravention fondée sur ces appareils en 2017. Par rapport aux statistiques compilées depuis le début de cette opération en août 2009, on constate que les radars photo fixes fonctionnent au dixième de leur régime normal. Une fois le projet de loi adopté, probablement à la session du printemps à l'Assemblée nationale, ces points névralgiques sont susceptibles de fonctionner à nouveau à plein régime. Alors, radars plutôt fixes les plus payants entre 2009 et 2017. 1. Montréal, à 300 mètres de la sortie Atwater sur l'autoroute 15 Sud, 139 798 infractions, 25 220 311 $. 2. Boucherville, à 200 mètres de la bretelle du boulevard de Mortagne sur l'autoroute 20 Ouest, 157 910 infractions, 14 504 214. Et 3. Est-ce que je le dis bien, le chiffre? Non, 14 504 214. Oui, merci Jean-Sébastien qui opine du bonnet. 3, Pincourt à 350 mètres à l'ouest du boulevard de Lille sur l'autoroute 20 Est, 78 554 infractions, 8 273 879 $. 4, Lévis à 1 km de la sortie pour le pont Pierre-Laporte sur le collecteur de l'autoroute 20, 53 617 infractions, 6 212 254 $. On est toujours dans les radars fixes les plus payants entre 2009 et 2017. Et finalement, cinquième place, si je puis dire ainsi, Mirabel à 320 mètres du chemin de la Côte-Nord sur l'autoroute 15 Sud, 16 101 infractions, 2 867 545 $. Dans les pages éditoriales, le texte d'Alexandre Sirois, « Oprah vraiment? » Le discours inspiré et remarqué d'Oprah au Golden Globes dimanche soir a relancé les rumeurs au sujet de sa candidature potentielle à la Maison-Blanche. Riche, influente, charismatique, la populaire animatrice de talk show a tout pour elle et sa célébrité est un atout indéniable. Donald Trump dit vouloir briguer un second mandat en 2020. Et pour le vaincre, le Parti démocrate devra vraisemblablement trouver un candidat hors du commun. Le problème jusqu'ici, c'est que personne ne se démarque véritablement parmi les prétendants potentiels. L'ancien vice-président Joe Biden, par exemple, il n'est probablement pas assez inspirant pour susciter un enthousiasme délirant d'un bout à l'autre des États-Unis. Alors quoi? On laisse tomber les politiciens d'expérience? On passe à un autre appel, celui de la célébrité? L'inexpérience d'Oprah ne la discrédite pas. Il faut toutefois espérer que les électeurs américains feront preuve d'un sain scepticisme et qu'ils ne lui donneront pas le bon Dieu sans confession. L'inexpérience politique, lorsqu'on est président de la première puissance mondiale, est un handicap. On l'a hélas constaté au cours de la dernière année. Un politicien d'expérience aura plus de chances de comprendre comment fonctionne le système politique, quelle est la nature du pouvoir exécutif et quel est le rôle du président. De comprendre aussi comment on crée des politiques publiques efficaces pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et de posséder les connaissances et les aptitudes nécessaires pour prendre des décisions éclairées dans plusieurs domaines. Donald Trump a lui-même confirmé à plusieurs reprises que son inexpérience était une faiblesse. Souvenez-vous, il s'est même exclamé en février dernier que personne ne savait que le système de santé était si compliqué. C'est faux, bien sûr. S'il s'y était intéressé, il l'aurait su. Et son jugement en la matière aurait été meilleur. L'idée d'avoir uniquement des politiciens de carrière à la Maison-Blanche ou parmi les autres élus n'est pas non plus la bonne. La contribution et le point de vue de ceux qui ont connu autre chose que la politique est essentiel. En revanche, le poste de président de la première puissance mondiale n'est pas le meilleur endroit où faire ses classes. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Encore plus de nos jours. Les enjeux auxquels ce politicien est confronté sont devenus aussi complexes que le monde dans lequel il joue un rôle fondamental. Même Ronald Reagan, ancien acteur devenu président, l'avait compris. On l'oublie souvent, mais il a été gouverneur de la Californie pendant 8 ans, de 1967 à 1975, avant de vaincre Jimmy Carter en 1980 et de s'emparer de la Maison-Blanche. Il avait roulé sa bosse. Entendons-nous, l'inexpérience d'Oprah ne veut pas nécessairement dire qu'elle ferait une piètre présidente. Elle a des qualités évidentes qui font défaut à Donald Trump, son empathie et son éloquence notamment. Son intelligence émotionnelle, par ailleurs, semble nettement supérieure à celle de l'actuel président. Elle pourrait peut-être, contrairement à Donald Trump, s'entourer de conseillers exceptionnels qui lui permettraient de compenser son manque d'expérience en politique. Malgré tout, il est un peu déconcertant de voir qu'il y a déjà un réel enthousiasme aux États-Unis à l'idée d'offrir les clés de la Maison-Blanche à une autre star de la télé en 2020. D'autant plus que ce geste enverrait parallèlement un message troublant. La meilleure façon d'accéder à la présidence des États-Unis serait désormais de devenir célèbre. La coalition Avenir Québec, la CAQ et le Parti québécois PQ s'opposent à la création d'une journée nationale contre l'islamophobie le 29 janvier, comme le demande la communauté musulmane, alors que le Parti libéral et Québec solidaire se montrent favorables. La Grande Mosquée de Québec et plus de 70 organismes musulmans ont demandé vendredi au gouvernement Trudeau de créer une telle journée à la mémoire des 6 victimes de la tuerie de janvier dernier. Mais la proposition divise l'Assemblée nationale, la CAQ et le PQ s'y opposent, mal à l'aise avec le terme « islamophobie ». Le Parti québécois choisit de ne pas utiliser le terme « islamophobie » qui fait l'objet d'une controverse permanente et lui préfère l'expression « sentiment anti-musulman », explique Bruno-Pierre Cyr, attaché de presse de M. Lisée. Le gouvernement de Philippe Couillard et le PLQ se montrent plus favorables, même si aucune position définitive n'a été adoptée.
une simple adresse. Gardez top secrète, je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. Derrière les masques où je suis inconnu, parmi les plus connus. Disco, partager son temps entre plusieurs amants, tous différents. Disco, retenir ce mot, faire place à ce je voyage. Ah, je voyage.
Un soir d'automne, note à l'agenda, 97 rue des Hommes. Jamais
Trio Le Couleur et la pièce Discolombo.
C'est bien Le Couleur. Oui, excellente musique. Merci Jean-Sébastien. À la une du Devoir, le mardi 9 janvier 2018, une photo de Donald Trump sous laquelle on peut lire dans son livre sur Donald Trump, le journaliste Michael Wolff raconte toutes sortes d'anecdotes sur le président, Fire and Fury, le reporter politique dans les coulisses du pouvoir. Est-il utile de savoir que le président des États-Unis se nourrit de hamburgers en écoutant la télévision? C'est un texte de Stéphane Baillargeon. Réseau de la santé, accident fatal en hausse. Quelques 378 personnes ont perdu la vie accidentellement alors qu'elles étaient à l'hôpital ou en CHSLD. La protection des milieux naturels a raison de la partisanerie. Plus d'une centaine d'élus fédéraux du gouvernement et de l'opposition réclament des investissements de 1,4 milliard de dollars. Délit d'initié, la commissaire à l'éthique blanchit Bill Morneau. Iran, le président plaide en faveur de plus de liberté. Lac Mégantic, fin des plaidoiries, le chef de train a agi de manière raisonnable selon son avocat. Économie, entreprise optimiste, les dirigeants d'entreprise prévoient investir et embaucher davantage au Canada en 2018 et culture, CIBL défend sa décision. Le président du CA qualifie les mises à pied de choix très difficiles mais responsables. Chute, erreur de médication et autres accidents survenus dans le réseau de la santé ont tué 378 personnes en 2016 et 2017. Une hausse de presque 16 % par rapport à l'année précédente. Les trois quarts des décès sont survenus chez des personnes âgées de plus de 75 ans. Dans 63 % des cas, c'est une chute qui a été fatale. Voilà un des constats du rapport annuel sur les incidents et accidents que le ministère de la Santé et des Services sociaux a déposé sur son site Web le 21 décembre. Les événements classés « autres » sont la deuxième cause de décès par accident dans le réseau. Le suicide ou l'étouffement en font partie. Le portrait est assez sombre, on ne voit pas d'amélioration, remarque avec inquiétude le directeur général du réseau FADOC, Danny Prudhomme. Remettre un rapport, ça ne suffit plus. Il faut moderniser les processus pour éviter au maximum ces accidents, affirme cette voix des aînés au Québec. On le voit dans le rapport, les femmes aînées sont les plus à risque, il faudrait les cibler et les protéger, demande aussi Judith Gagnon, la présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. En effet, 53 % des incidents et accidents enregistrés en 2016-2017 dans le réseau qui aient des conséquences ou non pour les patientes ont touché des femmes. Québec a formé un groupe de travail sur la sécurité des soins et des services dans les derniers mois. Ce dernier doit déposer un plan d'action pour l'automne 2018. Les 15 membres du comité sont issus du MSSS et des différents établissements du réseau, majoritairement des cadres. Au total, 500 000 d'incidents et d'accidents ont été rapportés dans les établissements du réseau en 2016-2017. Le gériatre David Lucier rappelle que les solutions sont connues pour prévenir les chutes et les erreurs de médication. Professeur au département de gestion d'évaluation et de politique de santé de l'Université de Montréal, François Bellan s'interroge. Avec la disparition des conseils d'administration locaux des établissements de santé, qui exerce la responsabilité de poser des questions, de mettre en place les correctifs, ça prend un retour sur les étages auprès du personnel, c'est très important, souligne ce dernier. Le ministre des Transports, André Fortin, et son collègue des Affaires municipales, Martin Coiteux, feront une annonce d'investissement pour la Société de transport de Montréal mardi matin en compagnie de la mairesse Valérie Plante. Des sources ont indiqué au Devoir que Québec confirmera l'acquisition de 300 autobus. En campagne électorale, la chef de projet Montréal avait promis que si elle était portée au pouvoir, elle ajouterait 300 autobus hybrides à la flotte de la STM d'ici 2020, afin de porter à 2089 le nombre de véhicules en service dans les rues de Montréal. Elle reprochait alors au maire Denis Coderre d'avoir sabré les budgets de la STM après son élection en 2013. Les travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine de l'avenue Atwater au quartier des spectacles ont débuté lundi, donc hier. Ce chantier est avant tout nécessaire pour remplacer les infrastructures souterraines, vieilles d'une centaine d'années, mais la ville compte profiter de l'occasion pour agrandir les trottoirs, planter plus d'arbres et offrir un accès au Wi-Fi sur la rue. Le gouvernement de l'Ontario promet de sévir contre les entreprises qui tenteraient illégalement de réduire les avantages de leurs employés pour compenser la hausse du salaire minimum dans la province. Ce seuil est passé de 11,60 $ à 14 $ l'heure le 1er janvier. Depuis, on a notamment appris que des franchisés Tim Hortons avaient éliminé les pauses rémunérées et confisqué les pourboires de leurs employés pour maintenir leurs marges bénéficiaires. Le ministre ontarien du Travail, Kevin Flynn, a déploré pareille attitude qui parfois contrevient à l'esprit de la loi, mais pas à sa lettre. « Nous enquêtons sur les allégations de violation à la loi », a-t-il prévenu lundi. Son ministère embauchera jusqu'à 175 nouveaux employés pour s'assurer du respect de la loi et espère résoudre toutes les plaintes dans un délai de 90 jours. Les nouvelles règles prévoient des pénalités plus sévères. Elles permettent aussi l'imposition d'intérêts aux sommes dues à des employés et la publication de l'identité des contrevenants, ce que le ministre Flynn se dit parfaitement disposé à faire. International à corps nucléaire, l'Iran se méfie d'une sortie américaine. L'Iran a mis en garde lundi la communauté internationale sur une possible sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, à quelques jours d'une décision américaine dans ce dossier. L'accord de 2015 a permis de lever une partie des sanctions internationales imposées à l'Iran. Le président américain Donald Trump dénonce régulièrement l'accord et a refusé à la mi-octobre de le certifier, en le qualifiant de l'un des pires jamais conclus par les États-Unis. Le président américain a jusqu'à vendredi pour dire s'il souhaite continuer sur cette voie ou non. La réponse de l'Iran sera appropriée et lourde. Les États-Unis vont certainement le regretter s'ils sortent de l'accord, a prévenu le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Ghassemi. Pour sa première visite en Chine, Emmanuel Macron a plaidé lundi pour une nouvelle alliance entre Pékin et l'Europe, dont il souhaite l'implication dans les nouvelles routes de la soie. Colossal projet de Xi Jinping qu'il a néanmoins mis en garde contre toute tentative ou tentation d'hégémonie. Pour le président français, qui s'est posé de facto en leader de l'Union européenne, cette alliance est nécessaire pour l'avenir du monde et doit également se décliner sur la question de la lutte contre les changements climatiques. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous dit merci d'être là. À venir, la revue de presse du Journal de Montréal.
Tu le diras aux enfants, tu prendras ce qu'il faudra de temps. Il y a des mots pour le dire, il y a des mots pour le pire. J'ai vidé l'arsenal, je ne sais plus trop si j'ai mal. J'ai peut-être un fond de fakir, ça peut aider à mourir. Je sais que tu crois encore au miracle, mais je sens que lâche les embâcles. Ce n'est plus vraiment mon corps, il ne tient.
Embrasse-moi encore. Embrasse-moi encore. Embrasse-moi encore.
Plus récent extrait de son album Almanach, c'était Patrice Michaud et La saison des pluies.
En une du Journal de Montréal, quand la croisière ne s'amuse plus, les fontaines, un couple, ne comprennent toujours pas pourquoi le Norwegian Breakaway, derrière eux, on voit un immense bateau, s'est dirigé vers la bombe météo. $289 par mois pour la télé à l'hôpital. Et Roson va se battre pour ses millions. $289 par mois pour avoir la télé à l'hôpital, c'est presque trois fois plus cher qu'à l'hôpital Notre-Dame. Le 26 novembre dernier, 110 patients hospitalisés à l'hôpital Notre-Dame ont été transférés dans le nouvel établissement du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Plusieurs ont été très surpris en recevant leur facture de la compagnie Mosino au montant de $289,74 pour la location d'un téléviseur pour un mois, alors qu'il en coûtait 108 et 2 cents par mois à Notre-Dame, taxes incluses. Ça me coûte moins cher pour 2 mois avec tous les services chez moi, Internet compris. C'est exorbitant. Une chance que les membres de sa famille nous aident à payer la facture, a dénoncé Nancy Laporte, dont la mère Pierrette Falcon fait partie des patients transférés au CHUM. Les patients qui veulent avoir les services de télévision et d'Internet pendant leur séjour devront payer $393 par mois. Actuellement, Internet n'est pas encore accessible pour les patients du CHUM. Une des entreprises qui a participé à l'appel d'offres du CHUM en mai, Hôpitel, affirme avoir offert de meilleurs prix pour les patients, mais que la commission qu'ils auraient versée au CHUM était inférieure. La porte-parole du centre hospitalier, Lucie Dufresne, a pour sa part rappelé que l'entreprise Mosino était la meilleure option parmi les soumissionnaires. Gilbert Roson ne veut pas verser des millions de dollars. L'homme d'affaires contestera la demande d'action collective contre lui. Le défendeur Gilbert Roson entend contester la demande pour autorisation d'exercer une action collective, indique le document déposé dans le dossier par Laverie de Billy, le plus grand cabinet d'avocats indépendants du Québec. Plutôt que de transmettre aux avocats adverses un simple accusé de réception, Roson a tenu à donner cette réponse qui met ainsi un terme à la possibilité d'un règlement à l'amiable dans cette affaire civile. C'est la première fois qu'il répond aux allégations portées contre lui, bien que par la voix de ses avocats. En octobre, il avait publié un bref message affirmant qu'il était ébranlé par les dénonciations contre lui et annonçant qu'il se retirait du festival Juste pour rire. Le mois suivant, le regroupement Les Courageuses avait intenté ce recours collectif contre l'ancien grand patron de Juste pour rire, qui aurait agressé au moins 20 femmes entre 1982 et 2016. Croisière d'enfer pour des Québécois, ils ont eu la peur de leur vie à bord d'un navire qui se trouvait au milieu de la bombe météo. 3 jours après avoir retrouvé la terre ferme, Denis Fontaine se dit toujours sous le choc. « Jamais je ne referai une croisière, j'ai eu bien trop peur », confie l'homme de 82 ans. « Je ne voudrais même pas rembarquer sur le fleuve Saint-Laurent ». Comme 4000 autres passagers, M. Fontaine a été fortement secoué à bord du Norwegian Breakaway, qui a affronté la violente tempête Grayson du 2 au 4 janvier alors qu'il reliait les Bahamas à New York. Selon les photos et vidéos qui circulent sur Internet et les témoignages des membres de la famille Fontaine, des vagues de 30 pieds ont soulevé le navire pendant près de 36 heures et de l'eau s'est infiltrée à de multiples endroits à l'intérieur du bateau. La famille Fontaine a embarqué le 29 décembre à New York pour passer le jour de l'an à bord du bateau de la compagnie américaine Norwegian Cruise Line. On préparait ce voyage depuis mai, c'était notre cadeau de Noël, dit M. Fontaine. Les Québécois comptent envoyer une plainte à la compagnie et demander un dédommagement pour les quelques 1 350 $ par personne que leur a coûté la croisière. De son côté, le croisiériste adresse ses excuses aux passagers pour l'inconfort et les inconvénients qu'ils ont vécus et assure que pour les dédommagements, nous travaillons avec nos invités qui ont été directement affectés. Les premiers mariages gays célébrés en Australie. En s'embrassant avec pour toile de fond des feux d'artifice, deux athlètes australiens ont été déclarés mariés juste après minuit hier, devenant ainsi parmi les premiers couples à profiter de la nouvelle loi australienne autorisant le mariage entre personnes du même sexe. Craig Burns, 29 ans, et Luke Sullivan, 23 ans, se sont dit oui à Carroll, une localité de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Morneau blanchi par la commissaire à l'éthique, elle juge qu'il n'a pas reçu d'informations privilégiées. La commissaire fédérale à l'éthique a blanchi le ministre des Finances, Bill Morneau, par rapport à la vente d'un bloc d'actions en novembre 2015 que l'opposition apparentait à un délit d'initié. « Je suis d'avis que vous n'avez pas bénéficié d'informations privilégiées », a fait savoir Mary Dawson dans une lettre adressée au ministre et datée du 5 janvier. La célèbre horloge astronomique du début du 15e siècle, l'une des principales attractions touristiques du vieux Prague, s'est arrêtée hier pour 6 mois pour des travaux de restauration destinés à la sauvegarder pour les générations futures, a annoncé la mairie. L'appareil sera complètement démonté dans les jours qui viennent, puis transporté dans un atelier de restauration. Doté d'un mécanisme compliqué et étonnamment précis jusqu'à nos jours, l'horloge située sur la façade de l'hôtel de ville de Prague attire chaque heure les touristes par le défilé de figurines des 12 apôtres dans de petites fenêtres au-dessus d'un astrolabe sophistiqué, montrant les mouvements des astres entre les signes du zodiaque. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada dévoilera demain matin les causes de l'écrasement d'avion qui a emporté le chroniqueur politique Jean Lapierre ainsi que plusieurs membres de sa famille en mars 2016 aux îles de la Madeleine. Le géant de l'alimentation Loblaws a lancé hier ses cartes cadeaux de 25 $ permettant aux victimes du cartel du pain d'obtenir un dédommagement tout en émettant certaines restrictions. À la fin de l'année dernière, Loblaws et Weston avaient admis avoir pris part à un stratagème pour faire gonfler les prix du pain entre 2001 et 2015. Quiconque a acheté un pain de l'une des 12 marques visées dans l'une des épiceries du groupe au cours de la période d'existence du cartel peut se prévaloir d'une carte cadeau en s'inscrivant sur le site www.loblacard.ca/fr sans avoir à présenter une preuve d'achat. Les personnes qui souhaitent se procurer une carte cadeau ont jusqu'au 8 mai 2018 pour le faire. Le bris d'un gicleur survenu à l'Assemblée nationale forcera le déménagement des bureaux de plusieurs députés, dont celui du chef du Parti québécois Jean-François Lisée. Le bris est survenu le 29 décembre dernier, alors que la grande majorité des employés de l'Assemblée nationale et des partis politiques étaient en congé. La fuite a pris naissance au 4e et dernier étage dans le gymnase réservé aux députés, avant de se propager au niveau inférieur jusqu'au sous-sol. Une quinzaine de bureaux de députés ont été touchés. La rénovation des locaux pourrait prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. Les députés du PQ sont les plus touchés, suivis par ceux de la coalition Avenir Québec. Le bureau de la WIP en chef du gouvernement, Nicole Ménard, a également dû être évacué.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi, je dirai ça t'apprendra, je dirai ça t'apprendra. Un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Non, pour te plaindre, il n'y aura personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là.
Un autre grand succès de France Gall, Laisse tomber les filles.
Les journaux régionaux dans le Nouvelliste, Mathieu Lamotte, les parents du petit Thomas, mort la semaine dernière dans l'incendie de la résidence de sa famille, sont très touchés par la générosité dont fait preuve la population à leur égard. La campagne de sociofinancement lancée au lendemain du terrible incendie qui a détruit une résidence unifamiliale de la rue Massicotte dans le secteur Cap de la Madeleine à Trois-Rivières et qui a coûté la vie au bambin de 3 ans, s'est terminé dimanche et a finalement permis d'amasser 18 467 $. Ce résultat surprend grandement l'initiateur de la campagne et cousin de la mère du petit garçon, Kevin Diamond. L'objectif initial était de 10 000 $. Au début, je ne pensais même pas qu'on atteindrait l'objectif qu'on s'était fixé. Le fait de l'avoir presque doublé en une semaine, c'est au-delà de nos espérances. Dans Le Soleil, la chronique de Gilbert Lavoie intitulée « Seul, son coiffeur le sait, point de suspension ». Pendant que les gouvernements promettent à chaque exercice budgétaire de s'attaquer aux travailleurs noirs, ils ferment les yeux sur les appels à l'aide d'une industrie qui dénonce ce phénomène dans ses rangs depuis plusieurs années. Vous êtes passé chez votre coiffeur avant le temps des fêtes? Lui avez-vous demandé s'il payait ses taxes et impôts comme tout le monde? Vous auriez peut-être dû. Les dirigeants de l'Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec viennent de lancer un appel à l'aide au Conseil du patronat, CPQ, pour mener une campagne de sensibilisation sur le sujet auprès des politiciens et de l'Agence du revenu. L'association est membre du CPQ depuis 1 an. Elle espère y profiter d'une expertise de lobby plus forte afin de faire entendre sa voix. Le problème soulevé par l'association est simple. De nombreux coiffeurs délaissent les salons professionnels pour travailler seuls ou louer des chaises dans des locaux et déclarer des revenus inférieurs à 30 000 $ par année, ce qui leur évite d'avoir à s'enregistrer à la TPS et à la TVQ. Selon l'association, une imposante majorité de salons de coiffure sont dans cette situation, une pratique qui équivaut à une fraude fiscale annuelle de 280 millions de dollars dans le secteur des soins personnels selon une évaluation de l'Agence du revenu. Outre la concurrence que cela leur crée, les employeurs de la coiffure font valoir que leur respect de la loi, notamment au chapitre de l'impôt, de la CNESST et des assurances ainsi que des congés payés, les défavorise par rapport à ceux qui travaillent au noir. Quand je paie un congé de maternité à une employée qui amène ses clients dans son sous-sol pendant ce congé et qui m'annonce ensuite qu'elle ne reviendra pas travailler pour moi, c'est une perte énorme, explique un membre de l'association. Les employeurs affirment également que cette concurrence du travail au noir nuit à leur recrutement de personnel. Selon eux, plus de la moitié des coiffeurs au Québec évitent ainsi de payer la TVQ et la TPS, privant les gouvernements de revenus importants. En 2012, nous avons obtenu une rencontre avec le ministre Raymond Bachand, raconte le président de l'association Gervais Bisson. Mais il y a eu des élections tout de suite après et ça a été oublié. Les coiffeurs ont aussi soulevé le problème sous le gouvernement de Pauline Marois, raconte M. Bisson, mais ils se sont fait dire que le gouvernement ne toucherait pas à ça tant et aussi longtemps qu'il serait minoritaire. À moins d'un an des prochaines élections en octobre 2018, les coiffeurs tentent de nouveau de sensibiliser les politiciens, mais aussi la bureaucratie, afin que leur message ne soit pas perdu au lendemain du scrutin s'il y a un changement de gouvernement. La démarche des employeurs coïncide avec l'implantation au début de 2018 de modules d'enregistrement des ventes dans leur commerce, comme on l'a fait dans les restaurants. Dans ce dernier cas, l'implantation de ces modules chez les restaurateurs aurait permis à l'Agence du revenu de récupérer plus de 400 millions de dollars par année. Les employeurs de la coiffure ne sont pas opposés à l'implantation de ces modules, mais ils estiment qu'elle doit être accompagnée d'autres gestes à l'endroit des gens de leur industrie qui travaillent au noir et qui ne paient pas leurs taxes et impôts. Légitime comme requête? Il me semble que oui. Bien sûr, ils veulent protéger leurs entreprises, mais c'est tout aussi légitime que de protester contre le congé de taxes accordé à Netflix, vous ne croyez pas? Parlez-en à votre coiffeur. Le droit, Benoît Sabourin, un voleur de dinde pourrait faire face à la justice. Un sexagénaire soupçonné d'avoir dérobé des dindes et des pizzas surgelées destinées à la confection de paniers de Noël pourrait faire face à la justice. Le service de la sécurité publique de la MRC des Collines de l'Outaouais espère bien avoir résolu une insolite affaire de vol de nourriture survenue il y a un mois, à la pêche. L'histoire remonte au 9 décembre. L'horloge affichait 14h30 au centre communautaire du secteur Rupert à La Pêche. L'endroit était bondé de gens en vue des préparatifs des paniers de Noël. Cette activité annuelle organisée au sein de cette petite communauté rurale tissée serrée. C'est alors que 7 dindes et 8 pizzas ont été subtilisées en plein jour. Il n'y a pas eu d'introduction par effraction. Ça s'est fait à la vue de tous. Mais ça s'adonne que nous avions un citoyen allumé qui a vu le vol et qui a pris des photos, explique le sergent Martin Fournel de la police de la MRC des Collines de l'Outaouais. Après enquête, le service de police a procédé le 23 décembre à l'arrestation d'un homme de 62 ans de La Pêche, en lien avec ce dossier pour le moins inusité. Le suspect a aussitôt été remis en liberté sous promesse de comparaître. Il doit revenir devant le tribunal le 23 mars où il pourrait faire face à des accusations de vol de moins de 5 000 $. Le sexagénaire doit respecter certaines conditions de liberté. Il doit notamment éviter de se rendre au centre communautaire du secteur Rupert. Quant à l'enquête, celle-ci est toujours en cours puisque l'homme pourrait avoir eu des complices lors du vol. Le point positif, c'est que les familles défavorisées de La Pêche ont quand même reçu leur panier de Noël en entier lors de la distribution des vivres. L'histoire a suscité un mouvement de mobilisation auprès de la population et des commerçants, ce qui a permis le rachat des aliments manquants. Ça peut sembler banal comme vol, mais c'est le côté moral de l'affaire qui a choqué les gens. C'était de la nourriture destinée à des personnes dans le besoin, affirme l'agent Fournelle. Quiconque possédant de l'information à propos de ce dossier est invité à communiquer de manière anonyme sur la ligne Info des Collines au 1-844-477-2529, 1-844-477-2529. Dans la tribune, Claude Plante, une délégation sherbrookoise au CES de Las Vegas. Sherbrooke aura pour la première fois une représentation officielle à l'événement international Consumer Electronics Show, CES, afin de promouvoir ses forces dans les technologies de l'information et des communications, TIC. L'événement annuel s'ouvre mardi à Las Vegas. Sherbrooke, Inopol et deux entreprises spécialisées dans les TIC, donc les technologies de l'information et des communications, feront partie d'une délégation québécoise pilotée par la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Anglade. C'est la première fois que nous aurons une délégation au CES ou CIS, confirme à la tribune José Fortin, directrice générale de Sherbrooke Inopol. C'est la place pour être au courant des nouveautés et des tendances dans le domaine des technologies de l'information. Ça bouge énormément dans cette industrie. Ça fait quelques mois qu'on se prépare, nous avons été contactés en juillet et nous avons voulu que des entreprises d'ici soient représentées. La délégation du Québec est composée d'une centaine de participants, dont 45 entreprises et organismes. Ces organisations proviennent de différents domaines d'activité tels que la réalité virtuelle, l'Internet des objets, les technologies de l'information et des communications, le transport et la culture, note le gouvernement. La mission au CES, disons-le en français, organisée par Export Québec, a pour objectif de promouvoir la capacité d'innover et la créativité des entreprises et organismes québécois afin de favoriser le développement d'affaires. Il s'agit de la plus grande délégation québécoise au CES à ce jour. On souhaite augmenter la visibilité et de faire valoir l'expertise des entreprises québécoises afin d'établir de possibles partenariats. Le salon Consumer Electronics Show, qui se déroule jusqu'au 12 janvier à Las Vegas, est l'un des événements les plus prisés au monde en matière d'innovation et de nouvelles technologies. Dans le soleil, Marc Allard, le futur IKEA de Québec vandalisé. Le bâtiment en construction du futur IKEA à Québec a été vandalisé en fin de semaine. Un graffiti sur lequel on peut lire « Surconsommation » a été peint en blanc et mauve sur la façade du bâtiment visible de l'autoroute 40. Le service de police de la ville de Québec confirme qu'elle a reçu une plainte à cet effet vers 8 heures dimanche matin et qu'une enquête a été ouverte. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens. À venir dans cette dernière demi-heure, eh bien, il y aura une chanson, l'actualité culturelle et sujet libre. Restez avec nous.
Bien plus souvent à la mamie coco. Parfois je pense à toi si fort, je le crée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille. Je me prolonge en toi, comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là, mon bel amour, ton froid comme fine soie et tes yeux de velours. Tourne tout vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma mère qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins que tu sois et je te garde. Dis-moi ce qui passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant de faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce que passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tout est toujours la plus belle. Car la laideur ne t'atteint pas, toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. À cœur de jour, mais on est tous des bons errants, cloués leurs amours. Il y en a qui jouent la guitare, d'autres qui jouent l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue mes amours et je danse en disant ton nom. Tellement je t'aime. Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie. Si tu n'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime. Ça fera le plus beau des poèmes. Je le lirai 100 fois. 100 fois, 100 fois, c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment s'ennuie à la manie,
regretté Leonard Cohen, qui reprenait bien sûr la manique George Dor, un extrait de son album de 2015 Can't Forget a Souvenir of the Grand Tour, cette pièce enregistrée au spectacle à Québec en 2012.
Actualité culturelle, je commence avec la lecture d'une lettre publiée dans Le Devoir d'aujourd'hui. C'est avec émotion que j'ai appris la mort de Bernard de Fallois le 2 janvier à l'âge de 91 ans. Il avait publié plusieurs de mes livres en France et je garde de lui le souvenir d'un seigneur de l'édition, homme d'une grande simplicité, d'une correction parfaite, à l'esprit fin et ironique et qui souvent semblait faire effort pour cacher son immense culture. Bernard de Fallois, c'est le créateur de la collection du livre de poche, le spécialiste de Georges Simenon, l'éditeur de Marcel Pagnol, de Françoise Chandernajor, d'Inédit de Marcel Proust, et j'en passe. Bien rares ceux qui peuvent étaler un tel palmarès. Un éditeur qui veut durer doit se doubler d'un homme d'affaires averti, et Bernard de Fallois l'était. mais c'était sa passion pour les livres qui transparaissait d'abord et avant tout, et sa profonde humilité devant le travail de la création littéraire. Chaque être est unique, mais personne, dit-on, n'est irremplaçable. Pourtant, il y en a qui s'avèrent tellement plus difficiles à remplacer que d'autres qu'on cherchera en vain leur successeur. Et c'est signé Yves Beauchemin, écrivain, le 8 janvier 2018. La chronique de Mario Girard, intitulée « De retour après la pause ». Ça ne va pas bien à CIBL. La radio indépendante de Montréal vit une autre crise. Vendredi dernier, la direction a procédé à la mise à pied de sa dizaine d'employés salariés. Le conseil d'administration a besoin d'un peu de temps pour voir clair et sortir l'organisme d'une impasse. Au cœur de cette tempête se trouvent des problèmes d'ordre financier. CIBL vit de fonds publics et de la générosité de ses membres, de fidèles auditeurs. Mais elle doit également pouvoir compter sur des revenus publicitaires. Or, ceux-ci ont fondu comme neige au soleil au cours des 4 dernières années. Au fond, CIBL vit la même situation que tous les grands médias. Des 400 000 $ que la station réussissait à aller chercher chaque année auprès d'annonceurs, la somme n'atteint plus maintenant que 100 000 $. Installée dans les magnifiques locaux de l'édifice 222 de la rue Sainte-Catherine, à l'angle du boulevard Saint-Laurent, CIBL doit débourser chaque mois, en salaire, loyer et autres dépenses, environ 22 000 $ pour fonctionner. Le hic, c'est que ses revenus mensuels sont de l'ordre d'environ 8 000 $. L'équipe de CIBL se dirigeait directement vers un gonflement de dettes, m'a expliqué Thierry Oldrinet, président du conseil d'administration de la station. Et la dernière chose que cette radio communautaire veut, c'est de se retrouver avec une grosse dette comme ce fut le cas il y a quelques années. « Nous avons épongé environ 80 % de notre dette », m'a confié le gestionnaire. « Il nous reste environ 30 000 $ à payer et on veut régler ça. » CIBL commence la nouvelle année avec un défi financier alors qu'elle a consacré une bonne partie de 2017 à revoir entièrement sa programmation. Cela s'est fait avec l'embauche d'un directeur des programmes, Arnaud Larsonneur, engagé pour revoir le son et le style de CIBL. La mise à pied de nombreux bénévoles et la création d'une liste de pièces musicales, communément appelée « playlist », n'ont pas été très populaires chez les employés et chez les auditeurs. Moi, le premier. J'ai d'ailleurs franchement exprimé mon idée là-dessus dans une chronique publiée en février 2017. Je disais en substance qu'une radio comme CIBL n'a pas besoin de formatage musical et qu'elle doit défendre bec et ongle son statut de laboratoire pour les jeunes talents qui ont envie de faire de la radio. C'est comme cela que les membres de Rock et Belles Oreilles, Marie-France Bazot et Monique Giroux, ont pu se faire les dents, le bec et les ongles. Larsonneur a quitté la station en décembre dernier. Il serait parti de son plein gré, selon Thierry Oldrinet. Ce dernier reconnaît que le jeune directeur des programmes ne faisait pas l'unanimité au sein des employés. C'est Valérie Crête qui le remplace actuellement par intérim. Même si ce remue-ménage a fait du tort à l'image de CIBL, Thierry Oldrinet croit qu'il était nécessaire. Il était temps, selon lui, de mettre fin à plusieurs vieilles émissions. Il souhaite maintenant aller de l'avant avec une programmation qui va poursuivre sa cure de rajeunissement sans tout changer de nouveau. « On ne peut pas faire complètement table rase », m'a-t-il dit. « Nous avons des obligations et une orientation ». Sans travail et privés de leur micro, les animateurs de CIBL ont rapidement réagi à cette crise. Avec comme chef de file l'animateur de la matinale de CIBL, Julien Poirier-Malot, un mouvement s'est créé. Les employés se tournent vers le public et souhaitent faire augmenter le nombre de membres. Julien Poirier-Malot fait partie des rares salariés de la station. Si on compte le nombre d'heures qu'il consacre chaque semaine à son émission, son taux horaire n'atteint même pas celui du salaire minimum. Malgré tout, ce passionné de la radio tient à tout prix à sauver la radio, qui lui sert actuellement de tremplin. Même s'il se dit touché par le geste des employés, Thierry Oldrinet croit qu'il ne faut pas ajouter de confusion à cette tempête. C'est le message qu'il a envoyé aux salariés et bénévoles venus le rencontrer hier en fin d'après-midi. M. Oldrinet dit avoir besoin d'environ 2 semaines pour mettre sur pied un plan d'action afin de relancer CIBL tant sur le plan financier que sur celui de la programmation. Ce plan aura sans doute besoin de l'aide des employés et du public, mais le président aimerait avoir d'abord les coups des franges. Après sa rencontre avec les employés hier, M. Oldrinet a tenu une réunion avec les membres de son conseil d'administration afin de lancer cette opération de sauvetage. Ce n'est pas la première fois que CIBL traverse une tempête. Chaque fois, des donateurs et des anciens sont venus à la rescousse de cette institution montréalaise vieille de 38 ans. Je ne sais pas quel type de plan de redressement la direction de CIBL va présenter, mais je sais que cette station n'aura pas de nombreuses autres chances de s'en sortir. La prochaine avenue proposée devra être la bonne. Le paysage médiatique a grandement changé au cours des 4 dernières décennies. Le public, jeune ou vieux, a en face de lui des options à la tonne. La vocation que se donnera CIBL doit concurrencer toutes ces options, mais elle ne doit pas non plus faire perdre le nord à cette radio communautaire. À force de vouloir jouer dans la cour des grands, CIBL s'est un peu perdu. On a oublié que son rôle était tout simple au fond, plaire aux gens d'ici tout en laissant à de jeunes animateurs et chroniqueurs l'occasion de faire les fous. La folie et l'actualité locale sont devenues des espèces rares. Misons là-dessus. C'est presque une mise en abîme. Vogue, ou Vogue, relaie sur son site web le sketch du bye-bye dans lequel Marc Labrèche imite, entre parenthèses, de manière hilarante, c'est un texte de Frédéric Murphy dans La Presse, Céline Dion, telle qu'elle apparaissait l'été dernier dans une vidéo tournée à Paris par Vogue, un sketch qui vise dans le mille, écrit la rédactrice de mode Brooke Bobe. Alors c'est vraiment dans le Vogue. Il faut lui donner ça. C'est une parodie parfaitement exécutée qui met en lumière à quel point la mode peut être drôle. L'équipe du Bye Bye avait déjà attiré l'attention du Paris Match avec cette même parodie, dans laquelle elle recrée presque plan par plan la virée de Céline Dion à Paris devant la caméra de Vogue, entre une séance d'habillage dans une suite du Ritz et un tour de traversier sur la scène, le tout dans des tenues extravagantes. Le promoteur Evenco a finalement partiellement répondu par courriel hier soir aux multiples demandes de la presse pour savoir pourquoi des centaines de spectateurs ont attendu 45 minutes dehors dans le froid avant d'assister au spectacle de The Killers samedi soir à la place Belle de Laval. Ce serait pour des motifs de sécurité. Nous offrons nos plus sincères excuses au groupe The Killers et leurs fans qui étaient présents, a écrit le gestionnaire de relations de presse Philippe Vandenbrand. Soyez assurés que la santé et la sécurité de tous demeurent notre priorité et que des correctifs seront apportés pour améliorer les opérations de notre nouvel amphithéâtre et l'expérience des fans. Dans un message publié dimanche sur sa page Facebook, le promoteur Evenco a invité les détenteurs de billets mécontents à téléphoner au 1-855-634-4474. Outre l'attente à l'extérieur par un temps glacial, des interruptions sonores pendant la prestation de The Killers ont aussi importuné les spectateurs.
Way out in the water, see it's hidden behind the rocks. Except the little fish, but they told me he swears trying to talk to me. Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. With your feet in the air and your head on the ground, try this trick and spin it. If there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming. Ooh, with your feet in the air. And spin it.
Ariane Moffat, qui reprenait ici la pièce Where is My Mind, un succès à l'origine par la formation de Pixies.
Sujet libre, vaporisateur nasal testé contre la dépendance. Un pchit dans les narines et l'envie de jouer disparaît. Des chercheurs finlandais ont annoncé hier lancer une étude unique en son genre pour mesurer l'efficacité d'un vaporisateur nasal contre la dépendance aux jeux de hasard. Le vaporisateur contient du naloxone, un traitement d'urgence des surdoses aux opiacés, qui permet d'agir sur la production de dopamine, un neurotransmetteur lié au plaisir, au rôle central dans les dépendances. Jouer répond à un comportement très impulsif. Le besoin de jouer est immédiat, c'est pour cette raison que nous cherchons un médicament à effet rapide. Le vaporisateur nasal agit en quelques minutes, a expliqué Anu Allo, professeur de toxicologie à l'Institut national de la santé et du bien-être de Helsinki. Ce début d'année, c'était dans le Journal de Montréal d'hier, lundi 8 janvier, 10 astuces pour maintenir vos résolutions toute l'année. Le début d'une nouvelle année est pour plusieurs le moment propice pour se donner de nouveaux défis et se fixer des résolutions. Saviez-vous que moins de 25 % des gens qui adoptent des résolutions les maintiennent? 10 trucs pour maintenir le cap. C'est une chronique signée Isabelle Huotte. Numéro 1. Donnez-vous un objectif précis et réaliste. Un objectif précis a plus de chances d'être atteint. Par exemple, au lieu de se donner comme objectif de manger plus de fruits, il est mieux de préciser « je veux manger 3 fruits par jour ». De plus, l'objectif se doit d'être réaliste. Perdre 15 livres en un mois ne l'est pas. Perdre 5 à 8 livres par mois l'est beaucoup plus. Et en se rapprochant de l'objectif, c'est beaucoup plus encourageant. Numéro 2. Divisez votre objectif. En divisant son objectif en actions plus petites qui permettent de l'atteindre, on obtient un meilleur succès. Par exemple, si vous voulez boire plus d'eau dans une journée, commencez par vous procurer une belle bouteille réutilisable. Remplissez-la le soir en prenant soin de la « jazzer » un peu, entre parenthèses, agrumes, feuilles de menthe, etc. Le matin, gageons que la bouteille sera particulièrement invitante. 2003, toujours dans le milieu, dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, évaluez les pour et les contre de votre objectif. On conseille d'écrire les pour et les contre reliés à nos objectifs. Par exemple, si je veux perdre du poids, je pourrais inscrire dans la colonne des pour, j'aurai plus d'énergie, mon taux de cholestérol chutera, je pourrai jouer avec mes enfants plus longtemps. Dans les contre, je mentionnerai, je devrais surveiller ma consommation de desserts dont je raffole, je devrais limiter ma quantité de bière, etc. Pour que ça fonctionne, les avantages devront dépasser les désavantages. On poursuit avec 4. Associer les actions à un moment précis. Si vous voulez manger plus de légumes, pourquoi ne pas vous dire qu'à vos deux pauses, vous allez en manger? Une méta-analyse publiée en 2017 dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics a démontré qu'avec le temps, on associe l'action avec un moment précis de la journée, ce qui augmente les chances que le nouveau comportement se traduise en habitude alimentaire. 5. Partagez votre objectif et vos progrès. Le fait de mentionner à un proche ou à ses collègues que vous avez de nouveaux objectifs santé peut vous encourager à persévérer. Dans une étude conduite en Californie, le fait de partager ses progrès régulièrement a permis à 70 % des participants d'atteindre leur objectif. 6. Embarquez vos proches dans l'aventure. Être soutenu par des collègues ou un proche permet d'accomplir ses objectifs santé plus facilement. Une étude publiée par l'American Psychological Association a démontré que les gens qui veulent perdre du poids ont plus de succès lorsqu'ils décident de le faire avec des proches. Non seulement la perte est plus importante, mais le maintien du poids est aussi facilité. 7. Écrivez votre objectif sur une base quotidienne. Écrire quotidiennement son objectif dans un journal ou dans son agenda permet de persévérer plus longtemps. Ceux qui écrivent leurs objectifs tous les jours sont plus enclins à l'atteindre que ceux qui ne l'écrivent pas. 8. Éliminez les pensées noires et la culpabilité. Ce n'est pas parce qu'une petite chose ne va pas bien que la journée est gâchée. Il faut absolument éliminer cette pensée de tout ou rien. Rappelez-vous qu'un objectif ne devrait pas être noir ou blanc. Les nuances de gris s'y retrouvent aussi. Si vous avez mangé un beigne au bureau le matin, alors que votre objectif était d'éliminer les sucreries, vos résolutions ne sont pas abandonnées pour autant. Revenez rapidement à vos bonnes habitudes sans afficher de culpabilité. 9. Brisez vos mauvaises habitudes. Pour intégrer un nouveau comportement alimentaire avec succès, il est important de se donner des outils pour nous aider à briser nos mauvaises habitudes. Par exemple, si vous essayez de réduire votre consommation de viennoiserie et que vous marchez devant une belle pâtisserie chaque matin, les tentations seront au rendez-vous. Prenez tout simplement une autre route, tant mieux si elle vous fait marcher davantage. Et 10. Reconnaissez votre progression. Tenir compte de ces progrès est assurément motivant. Votre cardio s'améliore, vous n'êtes plus essoufflé en montant les marches, vous cuisinez davantage pour le grand bonheur de toute la famille, votre glycémie n'a jamais été aussi belle. Voilà autant de facteurs qui vous encouragent à persévérer. Chaque fois que vous avez le goût d'abandonner, écrivez vos progrès sur une feuille et partagez-les avec vos proches. Rappelez-vous qu'une habitude ne se crée pas du jour au lendemain et qu'il faut se donner le temps nécessaire pour qu'elle fasse partie de votre quotidien. Bon début d'année, que la santé soit au cœur de vos priorités. Et c'est signé Isabelle Huot. Journaliste confirmée de la BBC a annoncé lundi sa démission de son poste de rédactrice en chef en Chine pour dénoncer l'inégalité salariale entre hommes et femmes au sein du service public audiovisuel britannique. Carrie Gracie a dénoncé dans une lettre adressée au public britannique une culture salariale secrète et illégale au sein de l'institution qui est financée par une redevance. La BBC vous appartient. Vous avez le droit de savoir qu'elle enfreint la loi sur l'égalité et résiste aux pressions pour établir une structure de rémunération équitable et transparente, écrit-elle dans cette missive publiée sur son blog. Je ne demande pas plus d'argent. Je pense être déjà très bien payé. Je veux simplement que la BBC se conforme à la loi et valorise hommes et femmes de manière égale, ajoute-t-elle. Carrie Gracie évoque aussi une crise de confiance au sein de la BBC. Coach de sommeil créé par la docteure en neurosciences Els Van Helm, l'application Sleep, S-H-L-E-E-P, est un tout nouvel outil qui pourrait améliorer la qualité du sommeil. Les participants sont d'abord invités à répondre à un questionnaire afin que leurs besoins soient évalués. Par la suite, l'application fournit un programme spécialisé d'amélioration des habitudes de sommeil qui inclut une série de vidéos et d'animations à visionner en plus d'exercices à effectuer. Elle recommande le visionnement d'un seul tutoriel par jour afin de bien assimiler l'information. L'équipe derrière le lancement de la plateforme dit avoir observé des résultats de l'ordre d'une réduction de 50 % du déficit de sommeil chez ses abonnés. Selon elle, suivre le programme pourrait améliorer la productivité, la concentration, la créativité ainsi que la réactivité émotionnelle. L'application Sleep est offerte gratuitement, mais en anglais seulement, sur iOS et Android. iOS. Merci, Jean-Sébastien. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci, Jean-Sébastien La Liberté, au choix musical et aussi à la mise en onde et bien plus encore. Je vous retrouve au Par Actualité.